que ton nom soit mentionné sur le bien. Ve'alto v'izachir shemecha. Que ton nom soit mentionné en bien. C'est-à-dire, lorsqu'il arrive du bien, on invoquera le nom de Dieu. Ou bien, troisième type de formule, modim, modim, la répétition d'une formule de reconnaissance, modim, modim. Et d'ailleurs, la troisième formule servait beaucoup pour déceler les christianisants, les judéo-chrétiens. Imaginez que, je me souviens de dans les premières réunions de la fraternité d'Abraham, je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette aventure, c'est pas l'amitié judéo-chrétienne, c'est la fraternité d'Abraham. Et nous avions des réunions entre musulmans, chrétiens et juifs. Et alors, c'était à l'époque où les musulmans et les juifs se rencontraient très difficilement, d'ailleurs ça continue, comme vous voyez, mais plus ou moins. Et alors, nous réunissions chez les chrétiens. Alors les chrétiens en profitaient pour nous inviter à une méditation commune. Bien entendu, les juifs avaient toujours quelque chose à faire à ce moment-là, mais alors un jour, un des responsables, c'était d'ailleurs le cardinal Danielou, soi-même, nous a demandé pourquoi. Alors on lui a expliqué, on s'est référé d'ailleurs à cette question, on lui a expliqué que nous savons très bien que lorsqu'ils lisent les psaumes, c'est les mêmes psaumes, seulement il y a une intention de lecture dédoublée, au nom du Père ou au nom du Fils, vous voyez, maudit, maudit. C'est-à-dire, et tout de suite, ça implique une théologie différente, et bien qu'il n'y ait aucun empêchement à lire les mêmes psaumes, en tant que psaume, à partir du moment où ça devient une conduite religieuse, ça implique une théologie différente et que, désolé, mais on peut. Vous voyez à peu près le... Alors, abordons tout de suite la lecture de la Gemara. J'espère que c'est clair pour tout le monde, même ceux qui n'étaient pas là hier. Si vous avez une question, tout de suite, de telle sorte qu'on puisse. Pas de question? Bon. Alors, la Gemara dit ceci. Bishlam a modim modim echatekinoto. C'est d'accord que pour la troisième formule de la Mishnah, la répétition de modim, mechatekinoto, on le fait taire. Et on fait taire le chaler tibou, ok? Mishum de mechazé kishte rachuyot. Parce que cela fait comme si, mechazé, cela montre littéralement, c'est de l'araméen, ça veut dire que ça apparaît comme qu'on s'adresse à deux souverainetés, ok? Et la deuxième formule, que sur le bien ton nom soit mentionné, c'est d'accord aussi qu'il y a là un dualisme et qu'on expliquera de la manière suivante, ça veut dire, mashmar, ça implique qu'on remercie Dieu, on reconnaît la souveraineté de Dieu sur le bonheur et pas sur le malheur, utnam, et pourtant on a enseigné, et je vous donnerai tout de suite la référence, c'est. À la page 54, et pourtant on a enseigné Hayav Adam Nevarech al Hara, l'homme a obligation de bénir par rapport au malheur, Keshem Shemavarech al Torah, de même, pas de la même manière que, mais de même qu'il a obligation de bénir pour le bonheur. Nous avons étudié cela assez en détail hier, je ne reviens pas, et là. Et voilà donc le sujet qui va nous occuper, et là, mais Al Kansipo Yagiu Rahamech, par rapport à cette formule, ta miséricorde est arrivée jusqu'au nid de l'oiseau, Maïtama, pour quelle raison? Pour quelle raison, Meshatkinoto? Pour quelle raison on fait taire celui qui parle ainsi? C'est clair jusque là. Alors la Gemara nous dit qu'il y a eu une controverse entre deux Amoraïm du Talmud de Yerushalayim. De Yerushalayim. Pligeba était en controverse à ce sujet, très Amorae et Maharba, deux Amoraïm dans l'académie de Maharba, littéralement ça veut dire en Occident, nous nous trouvons là dans cette Gemara à Babel, donc l'Ouest c'est Eret Israël, en Eret Israël. Vous savez qui sont les Amoraïm? Ce sont les enseignants de la Gemara, les disciples des Tanaïm. Donc la Mishnah est commune et les Amoraïm ont discuté au sujet de la Mishnah et là, pour, en ce qui concerne cette question, pour quelle raison fait-elle celui qui parle du nid de l'oiseau comme référence dans sa prière, là il y a une controverse entre deux Amoraïm. Rabbi Yossé Baravin et Rabbi Yossé Barzueda. Hadama, l'un disait, mi pene shemetil kina bema'ase bereshit. Première explication, donc première thèse de la définition de cette hérésie, entre guillemets, c'est parce qu'il introduit kina, la jalousie, de Maase Bereshit, littéralement dans l'œuvre du commencement, dans la création. C'est-à-dire comme s'il y avait une préférence particulière de Dieu par rapport à l'oiseau plutôt que à tous les autres créatures. Or, vous avez énormément de références qui vous montrent, que vous retrouvez d'ailleurs dans la prière juive, qui vous montrent que beaucoup de textes qui indiquent qu'il y a une ashgaha. Ashgaha, ça veut dire relation de providence, s'occuper de hein, une ashgaha. Je ne voulais pas dire un mot pas exact. Une ashgaha. Non, ashgaha, on a compris, mais.
Collective.
Pour toutes les créatures. Et voici par exemple une des formules de la Gemara. Mi karne re'emin ad betse yin. Depuis les cornes du renne, les choses les plus belles qu'on peut trouver dans le monde animal, c'est les cornes du cerf, les rennes, c'est le renne, ad kine betse yin, jusqu'à des œufs d'insectes, pour ne pas dire les choses sales. C'est-à-dire que tout qui existe, existe. Et par conséquent, il y a un certain niveau d'existence où il n'y a pas de hiérarchie de l'être. Et donc, tout ce que Dieu a créé, il l'a créé. Et par conséquent, nous n'avons pas à introduire premièrement une différence de nature, une différence d'essence entre telle catégorie de créatures, par exemple l'oiseau, que ce serait évident, ça va de soi, qu'il y a une grâce particulière qui s'attache au niveau de l'oiseau, et pas aux autres créatures. Que Dieu préfère les oiseaux aux araignées, disons. Bien sûr, nous savons ce qu'il préfère. Voyage et l'occupe plutôt. Mais il y a ici un risque d'atteinte au principe de l'unité du Créateur. C'est-à-dire, où ce dualisme est décelé au niveau de la relation de providence du même Créateur entre une partie de sa création et une autre partie de sa création. Donc, vous connaissez aussi l'expression que Dieu est Merachem à la Beriot. Merachem, c'est le même mot, c'est-à-dire la miséricorde sur toutes les créatures. Voilà la première thèse, je pense qu'elle est claire à comprendre. Le Hadama et la deuxième opinion dit Mi pene, parce que chez Ose, Midotav, chez la Kadosh Baruch Hu Rahamim, et là, c'est un passage assez difficile que nous allons commencer à étudier. Et je traduis d'abord. Voilà la deuxième thèse. Parce que celui qui formule ainsi, qui se formule ainsi dans sa prière, Ose Midotav Shalakadosh Baruch Hu, fait des attributs de Dieu, des Midot. Mida, ça veut dire de la manière dont Dieu se conduit vis-à-vis de son monde, la manière dont il dévoile sa volonté. La manière dont il dévoile sa relation avec son monde, c'est midot, ou c'est midotav, chez la Kajbo Rahamim, il en fait des attributs de miséricorde, mais ça veut dire donc une émotion, une émotion, c'est-à-dire que la motivation de la volonté de Dieu va être trouvée dans l'émotion, puisque la formule dit. Toi qui as pitié du nid de l'oiseau. Vénan et la grévote, alors qu'elles ne sont que des décrets, que des décisions. Quel est le problème? Bien, tout simplement, la question d'ailleurs a été posée hier, tout simplement c'est que ce n'est pas n'importe quelle formule d'hérésie qu'on a citée là. D'où vient l'éventualité d'une telle formule? Qui peut avoir l'idée de s'exprimer ainsi, toi qui as miséricorde sur le nid de l'oiseau? C'est quelqu'un qui a lu la Torah. Et qui sait que dans la Torah, il y a une mitzvah particulière qui concerne le nid de l'oiseau. Ce que je vais vous rappeler très rapidement, c'est-à-dire lorsque un homme veut prendre des œufs ou des oisillons dans un nid, mais que la mère est en train de couver ses petits, il n'a pas le droit de prendre la mère et le nid, il doit renvoyer la mère pour pouvoir prendre le nid. Et donc il y aurait toute une interprétation de cette mitzvah que Dieu aurait une miséricorde particulière pour le nid de l'oiseau, puisqu'il a donné une mitzvah particulière qui est censée protéger le nid de l'oiseau. Et donc, nous avons nous aurions là une achisa, une prise sur le problème, une preuve qu'il y a un rahamim particulier sur le nid de voleur. Et la Gemara refuse en disant, parce que ça consiste à dire, et là c'est là que je commence l'interprétation, ça consiste à dire que si Dieu a donné cette mitzvah particulière sur le nid de l'oiseau, c'est parce qu'il a un rahamim, une miséricorde particulière sur le nid de l'oiseau. Alors qu'en réalité, cela impliquerait la doctrine que la raison pour laquelle telle ou telle mitzvah est donnée à l'homme implique les préférences, les volontés, mais motivées par une affectivité de Dieu lui-même, alors que l'expression de sa volonté, c'est Gezera, c'est un décret de la volonté et non pas une motivation de ce type. Est-ce que c'est bien clair jusque là? Bon, premier point, facile à aborder, l'analyse peut être portée d'abord sur la prétention à avoir un cas particulier de protection sur le nid de l'oiseau. Je vous donnerai la règle générale. En réalité, il y a énormément de règles de la Torah qui peuvent se rattacher dans le même ordre d'idées. Par exemple, et c'est cité par les commentateurs, par exemple, qu'on n'a pas le droit de tuer le même jour la mère et l'enfant. C'est-à-dire, si on a besoin de viande, on n'a pas le droit d'aller dans le troupeau et de prendre une brebis et son enfant le même jour. Oto ved veno lotishrat. Et d'autres règles. Donc, en réalité, le principe est le suivant. Les règles sont toujours sans exception. Et la Torah formule le cas apparemment exceptionnel, c'est lorsqu'il s'agit d'un cas qui risquerait d'être en question, on croirait que la règle ne porte pas sur lui. Donc la Torah formule une mitzvah particulière pour ce cas, parce qu'on croirait que la règle générale ne porte pas sur lui, et il ne s'agit pas là d'un cas exceptionnel qui exclut que les autres, au contraire, c'est exactement l'inverse. Il s'agit d'un cas qu'on aurait tendance à exclure et qui est inclus dans la règle générale. J'ai compris cette première analyse. C'est-à-dire que si déjà je parle d'une miséricorde particulière sur l'être animal, la règle est générale. Merachem al kol haberiot. Il y a miséricorde sur toutes les créatures. Mais je pourrais croire que la règle ne porte pas dans ce cas, alors c'est pourquoi la Torah formule une règle particulière dans ce cas. Est-ce que c'est clair? Oui, on a l'habitude de citer cette analyse à propos du problème de Votevachel Gedi Machalav Imo. C'est-à-dire, on pourrait croire que la règle ne porte pas sur ce cas, mais c'est pourquoi la Torah formule la règle pour nous indiquer qu'elle porte vraiment aussi sur ce cas.
Est-ce que
ce n'est
pas une variante?
C'est d'ailleurs intentionnellement que j'ai cité cet exemple. Ce sont deux cas très parallèles. Ce n'est pas exactement une variante. Là, nous allons approfondir cet exemple. C'est un cas extrêmement parallèle. Et, bon, alors là, en réalité, nous abordons tout de suite de front le fond du problème, qui est le problème des Taramei Mitzvot. Des Taramei Mitzvot. C'est-à-dire, je vais vous mettre ça au tableau. Bon, c'est le problème de la raison, le sens des commandements de la Torah. Quel est le sens des mitzvot? Je vais formuler de manière simple. Nous trouvons telle mitzvah dans la Torah, par exemple celle-là, que nous allons lire d'ailleurs en détail. Alors, la question est, pourquoi Dieu a demandé cela? En vue de quoi? Et là, apparaissent deux thèses possibles d'après notre formule. Regardez bien sur le texte. Donc, si on n'y prend pas garde, cette formule impliquerait la thèse que les mitzvot n'ont pas de taram. Puisque la Gemara dit, dans cette hypothèse, dans cette thèse, Ve'enan elak zerot. Ce ne sont que des xerot. Une xera n'a pas de taram. Première définition. Okay. Zera, ça veut dire un décret. J'ai décidé comme ça. Ne cherchez pas pourquoi. C'est ça, xor xera. Okay? Vous avez compris ça? Donc, si on n'y prend pas garde, cette formule impliquerait que Et ce deuxième Amora, c'est Rabbi Yossé bar Zvida, bar Rabbi Zvida, ce deuxième Amora voudrait dire que, je veux dire, ça implique que la raison pour laquelle on fait taire celui qui dit Al Kamsipur Yagur Rahamecha, toi qui t'occupes particulièrement du nid de l'oiseau, puisque je sais qu'il y a une mitzvah qui le protège, okay, impliquerait que dans le problème général des Tarame Mitzvot, son opinion c'est qu'il n'y a pas de Taram. Il n'y a pas de raison à chercher pourquoi, en vue de quoi, Dieu a donné cette mitzvah. Ce sont des xérot. Est-ce que c'est clair? Bon, on a imputé cette thèse à Maïmoni. Et dans la discussion, je dis bien on a imputé cette thèse à Maïmoni. Et je dis bien que dans la discussion que nous allons suivre entre Nachmanide et Maïmoni, tout à l'heure, sur le commentaire du texte de la mitzvah, nous verrons que, il y a ce risque de voir dans l'enseignement de Maïmonide qu'il aurait, lui, opté pour une telle thèse, que les mitzvot n'ont pas de taam. Je veux dire, il aurait opté pour la thèse que le Rav qui a parlé dans la Gemara voulait dire que les mitzvot n'ont pas de taam. Est-ce que c'est clair? Qui, Maïmonide? Non.
C'était
pas. Attendez, il y a plusieurs livres des Tarame Mitzvot. Je ne sais pas si vous pensez à l'enfant.
Il donne
des raisons médicales aux Mitzvot.
Non, écoutez, je ne sais pas dans quelle source vous avez trouvé ça. Il y a un livre qui s'appelle Tarame Mitzvot et Tarame Minhagim, qui est une encyclopédie des Taramim que l'on peut trouver chez tel ou tel auteur à travers les siècles, concernant tous les minadim et toutes les mitzvot. Mais il existe un livre qui a été écrit en allemand et qui a été traduit en français, que vous avez peut-être dans vos bibliothèques, qui est... mais j'ai oublié d'ailleurs... Non, pas sans s'en rappeler. Un certain Eisberg, Machu Kazé, quelque chose comme ça, sur la loi. C'était traduit par le Rabbin Toitny, en français. Ça vous dit rien, ce livre-là? Alors bon, dans ces livres-là, vous avez toute la bibliographie, et on se réfère au fait que d'après Maïmonide, alors on utilise des tarnamisos rationalistes, d'après un tel mystique, etc. Et méfiez-vous un peu de ces livres-là, il faut toujours voir les choses dans leur source. Mais nous allons lire ça dans le commentaire immédiatement. Procéder par ordre, si vous voulez, tout de suite cette formule, la raison pour laquelle, je vais refaire l'analyse de la Gemara, la raison pour laquelle, selon la deuxième opinion, la raison pour laquelle on fait taire celui qui fait allusion dans sa prière au nid de l'oiseau, ce serait parce que ça impliquerait, une telle formule de prière impliquerait que la motivation de la mitzvah qui concerne le nid de l'oiseau, c'était de la part de Dieu miséricorde pour l'oiseau, alors que la règle générale, c'est que toutes les mitzvot sont une gzera, il n'y a pas de taram. Est-ce que c'est clair? J'ai poussé un peu la thèse à la limite pour bien vous faire comprendre la controverse. Jusque-là, il n'y a pas de problème. Et ensuite, nous reviendrons sur la suite de la Mishnah. Mais quand même une phrase dans la Gemara, on nous donne un maasé, un exemple, une illustration qui, pour bien nous faire comprendre la situation dont on veut parler. Harou dinechet kame de rabba ve'amar. On cite le cas de un tel, Harou, celui-là, qui priait devant Rabba et il disait dans sa prière, Ata hasta al kansipo, toi tu as eu pitié, mais le mot a changé, c'est plus la hamim, c'est la hous, ça veut dire avoir pitié d'eux, toi qui as eu pitié du nid de l'oiseau, Ata hous verachem alein, toi aie pitié et aie miséricorde sur nous. Amar Rabba, alors Rabba, entendant cet homme qui priait ainsi, Rabba lui dit, Kamayadar hay tsurba merabanan le ratsuye le mare. Combien c'est ce tsurba merabanan, c'est-à-dire ce rejeton de rabbin, c'est-à-dire cet élève de rabbin, il a appris que Dieu existe par les rabbins, et ça veut dire qu'il ne sait rien par lui-même. Si on ne lui avait pas dit, alors il ne saurait pas, ni qu'il n'y va comme ça, ni qu'il n'y va comme ça, et combien il sait le ratsuye le mare. Ça veut dire obtenir obtenu par les Français. Obtenir l'agrément de son maître. Ça veut dire essayer de... Il y a un mot précis en français. D'intercéder auprès de son maître. C'est-à-dire, littéralement, connaître le raton, la volonté de son maître, de pouvoir obtenir l'agrément de son maître. Amarle Abaye. Abaye, qui était l'élève de Rabat, se trouvait présent et lui a dit « Veha, meshatekinot dotnam. » Mais pourtant, on a essayé dans la Mishnah qu'il faut le faire taire. Et toi, tu le fais ici. Vous avez compris la difficulté? Tu vois bien que c'était des tibours, puisqu'il y avait Rabat et Abaye qui étaient présents. Alors, voilà donc la scène, quelqu'un qui prie et qui dit, toi qui as eu pitié sur les nids de l'oiseau, aie pitié de nous. Rabat, le maître, Rabat dit combien cet élève brillant, disons, s'est intercédé auprès de son maître, auprès de Dieu. Abaye, qui connaissait la Mishnah, demande à Rabat, il dit, mais il est écrit qu'il faut le faire taire, sous-entendu, et toi tu le félicites. Mais Rabat, Nami, le Chadoud, il est Abaye, et Houdéva. En réalité, la Gemara dit, Rabat voulait expliquer à Abaye comment on fait taire quelqu'un qui prie comme ça. Vous avez compris, il a donné une leçon de pédagogie. Ensuite, nous verrons d'autres... C'est clair. Ça veut dire, au fond, il s'est moqué de lui. Hein? Il a dit, c'est comme ça qu'on le fait taire. C'est-à-dire, il y a une manière d'appliquer la Mishnah. En donnant l'explication pourquoi il ne faut pas. C'est-à-dire, tu parles comme si tu connaissais les intentions de ton créateur. Mais à peu près quelle était la réponse. Alors nous allons tout de suite aborder sur le Chumash, le texte de cette mitzvah, et nous étudierons ensemble le commentaire de Nachmani, qui implique cette controverse avec Maïmon.
Vous nous expliquerez aussi pourquoi l'histoire raconte qu'un garçon est monté sur un arbre et...
Oui, on va y arriver, mais par allusion, parce que c'est pas exactement le sujet de l'histoire Ben Abouya.
Qui lui a dit, Chantal lui a dit, va, il a fait un temps qu'il a été avec Mecha, il est monté sur l'arbre pour libérer l'oiseau, et en tombant, il est.
Oui, je vous en parlerai. Mais enfin, ce ne sera pas le sujet. Et c'est ce qui a fait que l'histoire Ben Abouya est devenue un rêve, c'est ça?
Ah, mais c'est possible, je ne savais pas ça. Non, non.
Alors, nous allons prendre tout de suite le texte. Alors, je vais donner la référence hier, c'est Devarim, chapitre 22,
6 et
versets 6 et 7. Ceux qui n'ont pas lu, il y a encore des romans. Alors, d'abord, nous allons voir quelle est cette mitzvah. Qui y carré, quand si pour le fanecha. Donc, chapitre 22, verset 6. Qui y carré, quand si pour le fanecha. Lorsque il advient devant toi, lorsque tu rencontres par hasard, carré, kéli, mikré, quand tu portes, ça veut dire un nid d'oiseau, les fanecha devant toi, baderech, sur le chemin, de cholaet, ou alaare, sur tout arbre ou sur la terre. Qui carré, ça veut dire, dans le varim, qui carré, ça veut dire, s'il s'agit d'animaux sauvages. Le Midrash explique Prat la Mezouman. Ça veut dire, c'est pas si tu as un élevage chez toi, par exemple une basse-cour. Et dans une basse-cour, il y a un nid d'oiseau et une mère qui trouve cette fumée. Ça, la règle ne vaut que lorsque dans ton chemin, tu rencontres un nid d'oiseau, sur un arbre ou à terre. Vehaem est que la mère Robetset. Robetset, ça veut dire coule. Okay? À la Ephrochim, sur les poussins, Ephroach, ou à la Betzim, sur les œufs. Alors voilà quelle est la mitzvah, Lotika Haem, à la Vanim. Tu ne prendras pas la mère sur les enfants. Deux lectures possibles. Tu ne prendras pas la mère avec les enfants, c'est-à-dire tu as le droit de prendre les enfants, mais pas la mère. Lotika Haem, en plus que les enfants, à la Vanim. Ou bien ça veut dire Lotika Haem, à la Vanim. Tu ne prendras pas la mère tant qu'elle est sur les enfants. La suite du verset nous permet de trancher. Le verset 7, Shaleach, Teshalach et Taem, renvoyé, tu renverras la mère, Vetabanim, Tikachlach, et les enfants, tu les prendras pour toi, Lema'anitavlach, afin que tu aies du bien, Va'arachtayamim, et que tu allonges tes jours. Incompréhensible. Okay? Quel rapport entre le fait d'agir ainsi et la promesse qui est donnée? D'autant plus que c'est une des rares mitzvot où la Torah donne la récompense, ou indique quelle sera la récompense. Mais ici, la récompense est hypertrophiée, afin que tu aies du bien vers l'artayamim et que tu allonges tes jours. Mais quel rapport? Quel? Je vous dis une des rares, qui vous avez.
Est-ce que c'est exigé ou bien il peut le faire?
C'est exigé, c'est mitzvah.
Quand on rencontre, c'est
mitzvah. Oui, qui, lorsque tu rencontres, il faut faire cette mitzvah. Mystère. Okay. Voyons, on va procéder lentement et vous verrez que il ne faut pas réfléchir trop vite à des problèmes de ce genre. Vous voyez, cette hypothèse qu'on a imputée à Maïmonide, mais qu'on va discuter tout à l'heure. Cette hypothèse que il y a là la preuve de la miséricorde de Dieu sur le nid de l'oiseau. Chaléa. Et vous voyez, l'hypothèse qui arrive à l'esprit de beaucoup d'explicateurs, comme on dit, expliquants, de gens qui expliquent la Torah, que ça va de soi, que c'est rationnel. Nous avons là une définition du mitzvah, dont le Taham est clair. Il y a là l'indice de la miséricorde de Dieu sur le nid de l'oiseau. J'ai essayé tout de suite d'évacuer une telle opinion. Pour essayer de vous montrer un peu sa médiocrité et sa petitesse. Lorsqu'on appelle ce genre d'explications, lorsqu'on les appelle des explications rationnelles, ben c'est vraiment tam-tam. Qu'est-ce que ça veut dire? Regardez à quel point c'est monstrueux. Ça veut dire que Dieu a créé un monde où il y a des êtres faibles. Alors il donne à Israël des mitzvot pour protéger les êtres faibles, les oiseaux dans le nid de leur mère. Okay? Alors, si déjà Dieu est tellement préoccupé de la faiblesse de ces êtres faibles, bien qu'il les crée fort, de quoi on parle? On est devant un problème de théologie colossal, et puis finalement l'explication qu'on nous donne, elle est médiocre. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire on veut justifier Dieu en décelant ici une indication de sa bonté pour ses créatures, et en réalité, cela représente une accusation colossale. Ça veut dire, alors tu sais que cet être est vulnérable et exposé, ne le crée pas comme ça. De qui tu parles? Du Dieu créateur? Vous voyez à peu près le premier approche du problème. Et deuxièmement, où est la miséricorde là-dedans? Il n'y a rien de plus cruel que de renvoyer une mère qui couve ses petits. C'est tout le contraire. Où est là-bas? Qu'est-ce que c'est? Oui, ça veut dire qu'au fond, on ne comprend pas. Et on ne comprend pas ce qui se passe. Et de toute la façon, vous voyez le décalage que j'ai indiqué tout à l'heure entre la conduite de cette mitzvah, qu'on n'a pas le droit de prendre des poussins d'un nid tant que la mère les couvre, et la promesse qui est faite, et qu'est-ce que vous aurez comme bien vers Rachtayamim. Est-ce que c'est clair? Bon, c'est la première difficulté. Je voudrais donner une indication de détail avant de voir la suite. Voici comment est la halakha. On doit renvoyer la mère une première fois. Si elle revient, on la renvoie une deuxième fois. Mais si elle revient une troisième fois, on ne touche plus à rien, on s'en va. Voilà comment est la halakha. Alors vous voyez que dès qu'on rentre aussi dans le détail de la halakha, on se rend compte qu'on ne comprend pas très bien ce qui se passe. En tout cas, c'est indiqué par le texte. Shaleach, Teshalach et Taem. Deux fois et pas trois. D'accord? Vous voyez comment c'est dans le texte. Shaleach, Teshalach, c'est pas pour rien que c'est exprimé comme ça. C'est-à-dire, tu essaieras de renvoyer la mère une fois. Si elle revient, tu essaies une deuxième fois. Mais si elle revient une troisième fois, tu n'as pas le droit de prendre ni la mère ni l'époux. Maintenant, la mitzvah est, suivant la question que j'ai posée tout à l'heure, c'est que lorsque l'on voit cet événement, alors on a une mitzvah de renvoyer la mère et de prendre les... Vous voyez bien que l'explication par intention de miséricorde est très très faible. Je voudrais tout de suite pouvoir suivre très clairement l'enseignement de Nachmanide à ce sujet. Et quelle est la manière dont cette thèse est formulée? Et là, elle devient un peu plus cohérente. Hein? C'est pas que cette mitzvah nous est donnée parce que Dieu a pitié du nid de l'oiseau. C'est que cette mitzvah nous est donnée parce que la Torah veut nous enseigner une conduite d'apprentissage de la pitié. C'est-à-dire pour nous enseigner à nous la pitié. Est-ce que c'est clair? Vous voyez le décalage du point de vue du terme de la mitzvah. C'est clair? Bon. Mais dans tous les cas, c'est à ce niveau-là Là, la thèse devient un peu plus cohérente, mais à ce niveau-là, que nous avons tout de suite une objection, mais où y a-t-il miséricorde? S'il y avait vraiment miséricorde, la Torah nous aurait dit, si tu vois un nid couvé par sa mère, tu ne touches pas un point. Est-ce que c'est clair? Mais même si on dit que nous ne savons pas si les animaux souffrent de la souffrance morale à notre manière, et malgré tout, ne serait-ce que d'un point de vue empirique, et il n'y a pas de doute que il y a souffrance morale chez l'animal, même une tigresse a pour ses petits une tendresse telle que si on lui prend ses petits, elle en souffre. Et vous connaissez le grand principe de la tradition juive, tsarar ba'alei chayim midoraita. Il est absolument interdit d'infliger un tsarar, une peine à un être vivant. Vous avez chez dans les Sipurim Maasiot énormément de récits de ce genre. Vous voyez, pas moi, un peu
moins
à la mémoire. Ken
Sipurim Maasiot, c'est des.
Des récits de la vie juive populaire. Il voit un juif répugne à laisser souffrir un être vivant. C'est absolument interdit. Ken. Je sais pas moi, vous voyez tous ces gamins qui s'amusent à tourmenter des chats ou à. Et bien que le chat c'est pas cachère, malgré ça c'est absolument interdit. Et on raconte l'histoire d'un homme très âgé, très pieux, qui a perdu la vie parce qu'il y avait un chat qui était tombé dans un trou et puis il est descendu pour le sauver. Alors tous les goïms rigolaient, ils disent qu'est-ce que tu fais? Il a répondu Tsar ba alei chayim midoraita. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent comprendre ça? Alors, vous voyez donc, tout ça, ça fait contradictoire. Et il faut savoir que les hommes, c'est des Baalei Chayim, pour faire souffrir les hommes. Et c'est assez contradictoire. Alors, je vous donnerai une petite indication qui va nous permettre un peu d'élargir le sujet, et on va voir tout de suite le commentaire de Nahum. Regardez bien que le texte a employé trois termes pour parler des enfants. D'abord, il les appelle Ephrochim, des poussins, ou bien il les appelle Betsim, des œufs. Et ensuite, il dit Lotikachaem à la Banim, sur les enfants. Vous voyez, il y a trois termes différents. Qu'est-ce qui se passe? Il y a dans un nid des poussins ou des œufs. Et alors, qu'est-ce que dit la Torah? Tu ne prendras pas la mère sur les enfants. Bien sûr, les poussins ou les œufs, c'est les enfants de la mère. Mais il y a une indication dans le vocabulaire employé, réfléchissez un peu, je vais poser la question de la manière suivante. Jusqu'à présent, nous avons pensé, mais on a critiqué cette thèse, que la miséricorde est sur la mère. Ken? Alors réfléchissez. Mais on voit bien que la miséricorde n'est pas sur la mère, puisque c'est la mère qu'on fait souffrir. Je suis sûr que vous allez comprendre par vous-même. Regardez, je lis lentement en hébreu pour que vous entendiez bien la différence de vocabulaire. Qui carré comme si pour les paniers havadere vecholet olaret, efrochim obetim, veaem rovetset ala efrochim ola betim, lotika haem ala banim. Shaleach te shalach et haem et abanim tikachla.
C'était trois étapes, peut-être, non?
Oui, et alors? Quelles sont d'abord ces trois étapes?
L'étape de betim, l'étape d'efrochim, l'étape de banim.
Et pourquoi le vocabulaire change?
Quand on laisse la mère faire des poussins, on permet aux poussins de devenir des banines.
Oui, alors laisse la mère, pourquoi tu la renvoies?
Ça peut être un cas général.
C'est exactement comme vous avez dit, sauf que c'est tout juste le contraire. Vous allez voir.
Je vais les voir rien, c'est abonné.
Comment t'as dit?
Il faut chasser la mère pour qu'il soit banni.
Exactement. Exactement. Vous voyez que c'est tout le contraire. Ça veut dire que elle les empêche de devenir des banim. Alors, shaleach te shalach et haem. Et ta banim, kachlach, te kachlach, le ma'an, ve arachta yamim, ve le ma'an. Vous voyez que c'est tout à fait autre chose. Regardez d'ailleurs quelle est là. Ça y est, c'est clair. Voilà, c'est-à-dire, cette mère-là, elle est sur des œufs et sur des poussins, et puis elle est revêtée, et puis et le texte sait que c'est déjà des vanim, mais ils ne sont que Ephrochim et Betsy. Alors elle dit Lotikachaem à la vanim, les Shaler, Teshalach et Aem, et à banim, Ikachlach. Vous pensez bien que du point de vue du Midrash, je vais rester d'abord dans la halakha. Mais du point de vue du Midrash, il y a énormément de développement à partir du moment où on a lu vraiment comme c'est écrit. Donc on ne peut plus revenir à cette thèse que la miséricorde dont il s'agit ici concerne la mère. Il y aurait là, au contraire, dans le pshat, une cruauté vis-à-vis de la mère. Quelle? Alors regardez quelle est la formule de la Mishnah. Haomer al-kantzipor. La miséricorde est sur le nid, elle n'est pas sur la mère. C'est tout le contraire. Ça y est, c'est clair? Ça veut dire que nous sommes en présence devant une règle de conduite dont il faut comprendre le ta'am et qui va jusqu'à sa manifestation dans le monde matériel le plus élémentaire. Et ce qui est la règle de la halakha, à partir du moment où il y a un principe de sagesse, eh bien, il se réalise à tous les niveaux de l'être. Par exemple, c'est pas le sujet maintenant, mais je prends un autre exemple. Il ne faut pas mélanger le lait et la viande. Quel est le ta'am de cela? Il ne faut pas mélanger le lait et la viande. Ça nous renvoie à la chokhma profonde de la Torah qui sait pourquoi on ne mélange pas le lait et la viande. Mais ça va jusqu'au lait et la viande que le lait c'est le lait et la viande c'est la viande. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Et pas l'inverse. Parce qu'en fin de compte, le lait c'est du lait, la viande c'est de la viande. Je ne sais pas si vous avez compris. J'ai parlé un peu. Pas compris. Et je veux dire ceci, qu'est-ce que la Torah nous demande? Qu'il ne faut pas mélanger bassar et chalav. Et c'est une règle de chokma très importante, on ne mélange pas bassar et chalav. Dans le monde où on vit, bassar c'est de la viande et chalav c'est du lait. Alors on ne mélange pas non plus la viande et le lait. Ça y est, c'est clair?
Non.
Non, ah ouais. Qui pourrait expliquer?
Qu'est-ce que vous dites dans le monde, bassar c'est de la viande et c'est le lait? Ça que...
Attendez, je cherche un exemple qui serait plus simple, je reviendrai sur celui-là. Écoutez, tout ce qui existe dans le monde, c'est la manifestation, le dévoilement de réalités supérieures qui, en fin de compte, descendent, se dévoilent et descendent et se matérialisent dans notre monde à nous, qui est le monde inférieur. Ça a été mieux? Donc, à la racine, Bassar et Khalav, il y a une forma extraordinaire, on ne mélange pas Bassar et Khalav. Mais dans le monde là où nous vivons et nous nourrissons de notre monde, bassar en fin de compte c'est de la chair et chalav c'est du lait. Alors bassar et chalav on ne mélange pas. Mais quelle est la raison? C'est pas là qu'il faut commencer à la chercher, c'est là-haut.
C'est quoi la raison là-haut?
Ça j'ai pas dit. Non, ça j'ai pas dit. J'ai pas dit non plus. Mais vous comprenez cela? C'est que on va atteindre pour notre exemple. Le sens de cette règle, vous l'avez d'ailleurs atteint au niveau psychologique, si vous voulez, déjà. Il y a des mères qui empêchent leurs enfants de devenir des hommes. Voilà. Alors, lorsque tu vois cela, renvoie la mère et prends les enfants et fais-en des hommes. Et ça t'aidera à traverser l'histoire. Et c'est écrit dans le psaume. Une minute. Bon, alors ça, c'est finalement facile à apercevoir ce principe-là ainsi formulé. Mais ce que la Torah demande, c'est qu'il faut appliquer cela à tous les niveaux, et ça commence là, lorsque dans le nid de l'oiseau, il y a une mère et des petits. C'est-à-dire, si nous cherchons un apprentissage, que la Torah nous donne une pédagogie de conduite, afin que les ma'ani tavlach ve'arachtayamim, oui, eh bien, c'est pas du tout, dans ce qu'on a dit tout à l'heure, une idée que Dieu a pitié en particulier de la mère et des enfants de la mise là comme ça. C'est un tout autre apprentissage. Donc il faut découvrir la chokma, donc il faut découvrir le principe. Est-ce que c'est clair? Mais c'est vrai pour toute la mitzvah. Chaque mitzvah a un ta'am et le ta'am est très haut. Et en fin de compte, le ta'am se réalise à tous les niveaux d'être.
Pour reprendre l'exemple du lait et la viande, justement, on est dans un monde où on ne sait pas ce qu'il y a de lait et la viande. En séparant le lait et la viande, on finit par savoir ce que c'est que le lait et la viande.
Très bien. Vous savez, c'est exact. Il n'y a pas de doute. Je vous dirai plus, un homme qui, dans sa conduite alimentaire, sépare le lait et la viande, n'a pas de chance de devenir assassin, en court-circuitant le bon. Et vous comprenez, par exemple, quelqu'un qui, dans sa conduite, le Shabbat, n'appuie pas sur un bouton électrique, celui-là n'a pas de chance d'appuyer sur la détente du mitrailleuse. C'est un apprentissage qui fait qu'on devient autre. Mais ce qu'il faut comprendre, le principe que je viens de dire, c'est ceci. C'est que c'est vrai vraiment à tous les niveaux d'être. C'est à tous les niveaux d'être. Il y a une unité du comportement. Fin de la septième bande.